Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
La campagne de vaccination accélère, mais pas partout. Dans les EHPAD, à peine 10% des résidents ont reçu une première injection, information Europe 1.
Comment répondre à la détresse des étudiants? 29% d'entre eux souffrent de dépression. Le gouvernement va prendre en charge les consultations chez les psychologues.
L'envolée spectaculaire des créations d'entreprises l'an dernier, curieux dans un contexte de récession économique. Pas tant que cela, il y a des explications.
Nicolas Sarkozy encore dans le viseur du parquet national financier qui ouvre une nouvelle enquête. Dans le collimateur de la justice, les activités de conseil de l'ancien président auprès d'une société russe.
Et puis, quel avenir pour le traité START de démantèlement des armes nucléaires signé entre les Américains et les Russes? L'œil de Didier François à la fin de ce journal.
Anissa Haddadi, vous nous confirmez que la moitié du pays sera sous la neige demain.
Oui, et il s'agit de la moitié nord, Isabelle, avec 13 départements en vigilance orange, neige, verglas. Demain, à partir de 6h, les températures seront en baisse aussi hein, le matin. Une vraie chute avec beaucoup de températures négatives. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La campagne de vaccination accélère. Franchement, désormais, 318 000 personnes vaccinées depuis fin décembre, 71 000 pour la seule journée d'hier.
Et on rappelle que les résidents des EHPAD et les soignants de plus de 50 ans sont prioritaires, sauf qu'on s'aperçoit que ça coince injustement dans les maisons de retraite, Victor Dolande.
Oui, seuls 10% des résidents des EHPAD ont été vaccinés depuis la fin du mois de décembre. Un peu plus de 74 000 personnes vaccinées sur un total de 700 000 résidents dans les EHPAD de toute la France. Les 244 000 autres personnes vaccinées sont des soignants de plus de 50 ans, mais aussi des pompiers, des aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. Ce qui veut dire que sur les 318 000 Français vaccinés, une personne sur cinq est un résident d'EHPAD, c'est peu. Le recueil du consentement, souvent pointé du doigt, est l'une des raisons de cette lenteur. Le gouvernement promet toutefois que la campagne de vaccination va considérablement accélérer dans les EHPAD et ce, dès lundi prochain. En visite dans un centre de vaccination ce matin à Troyes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré qu'il y avait déjà 833 centres actuellement ouverts dans tout le pays. Le ministre a également fixé de nouveaux objectifs. Les stocks de vaccins actuels permettront de vacciner, dit-il, jusqu'à 2,4 millions de Français d'ici la fin février. Nous pourrons même arriver à 4 millions de Français vaccinés, a-t-il poursuivi, si et seulement si le vaccin AstraZeneca est validé d'ici là par l'Agence européenne des médicaments.
Victor Dolande, on apprend ce soir que le groupe Pfizer, principal fournisseur de vaccins pour l'Europe, va ralentir ses livraisons dans les prochaines semaines.
Oui, problème dans la chaîne d'approvisionnement apparemment, mais Bruxelles se veut rassurant. Les doses commandées pour le premier trimestre, c'est-à-dire jusqu'à fin mars, seront livrées normalement.
Ils ne sont pas les premiers concernés par la campagne de vaccination, mais il n'empêche, la crise sanitaire pèse sur le moral des étudiants.
Et le constat est même accablant. Un tiers des 18-25 ans souffrent de dépression. Selon l'étude de Santé publique France, l'exécutif tente de voler à leur secours.
Le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur ont reçu les représentants des étudiants et des présidents d'université à la sortie. Les avis étaient plutôt mitigés. Ils ont obtenu une confirmation. La reprise des cours de travaux dirigés en demi-groupe. Mais pour le reste, Virginie Riva, peu de choses ont été annoncées.
Effectivement, et c'est vraiment la déception du côté des étudiants. Ils s'attendaient à des annonces ce matin sur un éventuel retour en présentiel à partir de la rentrée du deuxième semestre. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait donné la date du 4 février pour une reprise progressive de tous en présentiel. Pour Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, le gouvernement est totalement déconnecté des attentes du monde étudiant.
Pas grand-chose n'a bougé entre hier et aujourd'hui. Il y a quelques petites avancées, mais on est bien loin des attentes des étudiants. Là, les étudiants veulent reprendre les cours en présentiel parce que ça fait presque 8 mois que tout ce qu'on fait, c'est suivre des cours sur Zoom et écouter nos profs parler et recopier ce qui est dit. Enfin, c'est pas une vie et c'est pas une manière d'étudier. Donc, il faut absolument trouver un moyen pour qu'on puisse reprendre en partie les cours en présentiel.
Seule bonne nouvelle pour suivre les organisations syndicales, le chèque santé mentale, un chèque pré-rempli pour pouvoir consulter un psychologue en ville sans engager de frais. Mais difficile pour autant de se réjouir d'un tel dispositif. L'UNEF appelle d'ailleurs à manifester le 26 janvier dans toute la France.
Virginie Riva, les bonnes nouvelles sont assez rares en ce moment, alors on va les prendre. Il y en a une qui étonne, c'est l'envolée des créations d'entreprises.
Oui, c'est d'autant plus surprenant qu'on est en pleine crise économique, mais c'est une réalité. Hein. Selon l'INSEE, on a jamais autant créé d'entreprises que l'an dernier, près de 850 000. Alors expliquez-nous, Olivier Samin.
Ben oui, c'est un record absolu. 850 000 créations d'entreprises, soit une hausse de 4% par rapport à 2019, qui, il faut le souligner, était déjà une année record. Alors il faut regarder dans le détail les chiffres pour comprendre ce qui s'est passé l'année dernière. Parmi les 850 000 entreprises créées en 2020, les trois quarts, 630 000, sont des entreprises individuelles. Et au sein de ces entreprises individuelles, c'est l'activité transport et entreposage qui a explosé, plus 22% l'année dernière, nous dit l'INSEE. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme transport et entreposage? Eh bien, pour une grande partie, les livreurs à domicile qui, rappelons-le, ont le statut de micro-entrepreneurs et dont l'activité s'est envolée quand les restaurants ont dû se reconvertir dans la fabrication de plats à emporter. Il y a donc clairement un effet Covid dans les chiffres publiés ce matin par l'INSEE. On le voit d'autant plus que les créations d'entreprises classiques, les entreprises avec un statut de société, ont, elles, été légèrement moins nombreuses que l'année précédente. Elles se sont repliées de 0,2% en 2020.
Précision signée Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h07 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. À peine sorti du procès des écoutes, Nicolas Sarkozy est visé par une nouvelle enquête.
Une enquête du parquet national financier sur un possible trafic. Cette fois, ce sont les activités de conseil de l'ancien président de la République qui intéressent la justice, Chloé Triomphe.
Oui, c'est désormais l'activité professionnelle principale de l'ancien chef de l'État qui lui rapporte de substantiels revenus avec des clients partout dans le monde et notamment des clients russes, comme dans cette affaire qui occupe les magistrats du parquet national financier depuis l'été dernier, selon nos confrères de Mediapart. Alors dans ce dossier, les enquêteurs veulent savoir si Nicolas Sarkozy a exercé ses activités de conseil en tant que simple consultant, ce qui est parfaitement légal, auprès de la société d'assurance Réseau Garantia, contrôlée par deux milliardaires russe ou s'il a pu s'adonner à des pratiques de lobbying potentiellement délictuelles pour leur compte. Le contrat qui intéresse les enquêteurs se montrait à environ 3 millions d'euros, contrat passé en 2019 et pour lequel Nicolas Sarkozy aurait déjà perçu 500 000 euros. L'ouverture de cette enquête a été motivée par un signalement de Tracfin, l'agence de lutte contre la corruption financière qui siège à Bercy, auprès des magistrats. Une enquête qui vient allonger les ennuis judiciaires de l'ancien chef de l'État qui sort à peine du procès des écoutes face, là encore, aux accusations du parquet national financier.
Chloé Triomphe, l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, garde à vue levée pour les 7 adolescents interpellés mardi. Ils ont tous été relâchés. 14 personnes restent mises en examen dans cette affaire. À l'étranger, le gouvernement du Premier ministre néerlandais Mark Rutte contraint à la démission face au scandale.
Plusieurs milliers de familles accusées à tort d'avoir fraudé les allocations familiales selon un rapport parlementaire qui pointe la responsabilité de plusieurs fonctionnaires dans cette affaire. Une erreur d'appréciation qui a plongé nombre de foyers dans de très graves difficultés financières.
Et puis c'est un appel solennel et il ne vient pas de n'importe qui. L'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev s'est adressé au futur président américain Joe Biden.
Et oui, l'homme qui a mis fin à la guerre froide supplie Joe Biden de sauver le traité START de désarmement nucléaire. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales, bien sûr. C'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal de 19h. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors si Mikhail Gorbatchev sort ainsi de sa réserve, c'est que l'enjeu est de taille.
Hein. Absolument. Le traité START, c'est le dernier accord de désarmement nucléaire toujours en vigueur, celui qui limite les arsenaux stratégiques de la Russie et des États-Unis à 1550 ogives, les bombes donc, et à 700 lanceurs. Donc missiles, bombardiers, sous-marins. Alors vous me direz, ça fait déjà de quoi détruire plusieurs dizaines de fois la planète. C'est vrai, mais si ce traité n'était pas renouvelé, la course aux armements serait immédiatement relancée, et cela sans le moindre garde-fou. Or, le temps presse, puisque l'accord expirera le 5 février prochain, soit tout juste 16 jours après l'intronisation de Joe Biden. Le nouveau président américain devra donc trancher très rapidement s'il veut renverser la tendance de Donald Trump qui était de se retirer de tous les engagements multilatéraux signés par les États-Unis. Sachant que la dernière mouture de ce traité avait été signée en 2010 par Barack Obama alors que Joe Biden était son vice-président et que pendant sa campagne, eh bien, le candidat s'est prononcé en faveur de son renouvellement. Certes, son administration n'aura évidemment pas le temps de renégocier les termes du traité dans une période aussi courte. Et donc, ce que propose Vladimir Poutine, c'est d'en proroger la validité sans attente et sans condition pour une période d'un an, et puis ensuite de lancer parallèlement de nouvelles discussions pour l'avenir.
Parce que les Américains voudraient que l'arsenal chinois en plein développement soit inclus dans ces négociations?
Oui, alors pour l'instant, la Chine s'y refuse absolument en faisant valoir qu'elle ne dispose à ce stade que de 290 têtes, la France en ayant 300 et la Grande-Bretagne 215. L'équipe de Joe Biden envisage donc d'organiser des négociations en deux étapes qui élargissent à terme ce cadre bilatéral russo-américain à des pourparlers multilatéraux qui associeraient les trois autres puissances atomiques du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui en soi, finalement, n'est pas incompatible avec la position française. Emmanuel Macron l'avait rappelé en février dernier. Il est essentiel que le traité New Start soit prolongé au-delà de 2021 pour éviter la relance d'une course aux armements. Et si cela est nécessaire, il l'avait dit, pour lever les blocages, la France est prête à participer à des discussions rassemblant les cinq États dotés d'armes nucléaires.
L'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci beaucoup Didier, bon week-end à vous.
Vous aussi.
Le foot, des matchs de Ligue 1 en clair et sans rien payer. Et c'est la proposition d'M6 qui se dit prête à diffuser des matchs donc du championnat de Ligue 1 sur son antenne en attendant que la Ligue trouve un nouveau diffuseur.
En attendant, il y a une 20e journée qui débute ce soir, Isabelle, Montpellier-Monaco à 21h.
Et la suite s'annonce plus compliquée, ou incertaine en tout cas, car le coronavirus plane de nouveau sur la Ligue 1.
Le match entre Lorient et Dijon prévu dimanche est d'ores et déjà reporté sine die. 10 joueurs bretons ont été testés positifs.
Et puis j'ajoute qu'à Saint-Etienne, des joueurs et des membres de l'encadrement stéphanois ont également été déclarés positifs au Covid. Pour l'instant, le match est maintenu à 15h ce dimanche et que l'entraîneur du Paris Saint-Germain vient de l'apprendre, l'Argentin Mauricio Pochettino est positif au Covid. Il va donc se mettre lui aussi à l'isolement et ses adjoints dirigeront l'équipe tant qu'il ne sera pas complètement guéri. Voilà, la météo. Merci Christophe Lamar, bon week-end à vous. La météo, Anissa Haddadi, 13 départements en vigilance, orange, neige et verglas.
Oui, à partir de demain matin, l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, Paris et la Petite Couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne et le Val-d'Oise en vigilance orange car il va neiger sur tous ces départements demain avec 3 à 10 cm de neige attendue. Les températures seront négatives demain matin jusqu'à moins 8 degrés à Metz, moins 1 degré pour Paris. Alors attention au risque de verglas. Cette perturbation va se décaler vers l'est pour voir la neige arriver dans le Grand Est dans la nuit de samedi à dimanche.
Merci beaucoup Anissa. Vous souhaite un excellent week-end.
Bon
sous la neige,
Isabelle.
Donc.
Europe 1. Écoutez le monde changer.